Les manettes à la baguette sur RCN, Johan Turpin.
Et bonjour Joris.
Et bonjour Johan.
Et encore une fois, actu dans nos petits grands écrans, ce qu'on a dans la poche, ce qu'on a dans le salon, absolument partout, on va en discuter. Et au travers de leur musique, et je propose qu'on commence par toi mon bon Joris.
Et ben c'est parti.
Allez.
I feel you, Joanna. I feel you. Do they think that walls can hide you? Even now I'm at your window. I am in the dark beside you. Buried sweetly in your yellow hair. Joanna, and are you beautiful and pale with yellow hair like her? I'd want you beautiful and pale the way I've dreamed you were, Joanna. Beautiful, what then, with yellow hair like wheat? I think we shall not meet again, my little dove, my sweet Joanna.
I'll steal you, Joanna.
Goodbye, Joanna. You're gone and yet you're mine. I'm fine, Joanna,
Joanna.
Sign of the devil, say on fire. Witch, witch, smell it, sir, an evil smell. Every night at the vespers bell, smoke that comes from the mouth of hell. Say on fire, say on fire. Mischief, mischief, mischief.
And if I never hear your voice, my turtle dove, my dear, I still have reason to rejoice, the way ahead is clear, Joanna.
I feel.
And in that darkness when I'm blind with what I can't forget,
Joanna,
it's always morning in my mind, my little lamb, my pet, Joanna. You stay, Joanna, the way I've dreamed you are. Oh, look, Joanna, a star.
I tell you, smell that air, city on fire. Quick, sir, run and tell, warn them all of the witch's spell. There it is, the unholy spell. Tell it to the Beelan police as well. Tell them, help, fiend, city on fire. City on fire. Mischief, mischief.
And though I'll think of you, I guess, until the day I die, I think I miss you less and less as every day goes by, Joanna. And you'd be beautiful and pale and look too much like her. If only angels could
prevail, we'd be the way we were, Joanna.
I feel you, Joanna.
Wake up, Joanna. Another bright red day. We learn, Joanna, to say goodbye.
I'll steal you.
Tu as trouvé ?
Et oui, Snowy Little, et pas du tout parce que le méchant de cette comédie musicale porte mon nom, absolument
non, pas du
pas.
Tout. Mais oui, c'est exactement ça, c'est Sweeney Todd. Oui. Donc là, on a entendu la version du film de Tim Burton, puisqu'en fait, c'est une comédie musicale de base, hein, créée en 1979
absolument.
Par Stephen Sondheim, qui avait notamment travaillé sur West Side Story avec un livret de Hugh Wheeler. Et donc là, c'était le film de 2007 de Tim Burton, qui fêtera bientôt ses 20 ans, avec comme un gros casting 100% britannique, puisque presque tous les acteurs ont déjà aussi joué dans Harry Potter, puisque Johnny Depp a joué dans Les Animaux Fantastiques.
Oui, absolument.
Helena Bonham Carter, qui a fait notamment Bellatrix.
Et oui.
Jamie Campbell Bower qui a fait Grindelwald jeune dans Harry Potter.
Oui.
On a aussi Alan Rickman, forcément, qui fait le professeur Rogue, et Timothy Spall qui fait Peter Pettigrew. Et
oui,
du coup, voilà, Sweeney Todd, qui a pour sous-titre Le diabolique barbier de Fleet Street, pour vous en parler rapidement, c'est un barbier hein, qui revient de 15 ans de fuite dans une
absolument.
Prison, qui revient à Londres pour se venger de tout le monde et qui va globalement utiliser son métier de barbier pour. Pour commettre des crimes, hein, on va le dire. Hein.
Oui, oui. Voilà.
Voilà, on va pas tout spoiler, mais je vous conseille de le regarder. C'est un très bon film, une très bonne comédie musicale. Les musiques sont excellentes.
Alors moi qui suis fan des comédies musicales britanniques, puisque tu as parlé du casting, je vais aussi étaler mon beurre et ma confiture. Celle qui joue le rôle de Madame Lovett en 79, c'est Angela Lansbury. Angela Lansbury, c'est un grand nom de la chanson et du doublage, puisque elle a été surexploitée par Disney. Elle a eu aussi sa propre série policière qui s'appelait Arabesque chez nous, Murder, She Wrote. Et la première incarnation, donc le rôle d'Helena Bonham Carter par Angela Lansbury est absolument fameux.
Ouais.
C'était un défi de reprendre ce qu'elle avait fait pendant toute cette période-là. Donc voilà, bon, super, très bien.
Voilà, c'était mon petit coup de cœur comme je l'ai vu il n'y a pas très longtemps.
Oui, et puis il y a peu de comédies musicales qu'on a passées à l'antenne, donc ça fait plaisir aussi. Allez, on passe au bien.
Bye.
Alors ?
Jeu vidéo, mais je n'ai pas le jeu vidéo.
Oui, mais toutes les citations que tu as faites sont bonnes. Tu m'as dit ambiance à la Cuphead,
ouais, un peu,
absolument.
Ouais.
Alors, le lien qu'il y a avec Cuphead, c'est que c'est dessiné aussi.
Okay.
En fait, le titre qu'on vient d'entendre, c'était Mozzarella Massacre, composé par l'excellent Patrick Selina.
D'accord.
Et on va parler du jeu Mouse P.I. qui est sorti récemment, donc le 16 avril. Un grand bravo à Fumi Games, qui est un studio de développement polonais où ils font des jeux vraiment très très bon, c'est sorti sur toutes les plateformes Windows, Play 5, Xbox Series, et ils ont annoncé au dernier moment qu'il y avait même une version Switch 2 que je suis en train actuellement de poncer. Comment vous donner un peu les ambiances de Mouse P.I. Imaginez donc un monde à la cartoon des années 30, on est presque Mickey en noir et blanc.
Okay.
On fait une enquête et c'est un jeu de tir rapide, donc c'est un FPS, mais alors tout est drôle là-dedans, c'est très dessiné, le doublage est absolument fou d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence de laisser le doublage en anglais avec des sous-titres pour ceux qui ont besoin de les lire, c'est vraiment très intéressant. L'histoire est très très et assez géniale. Tout est transformé pour le monde des souris. Rien qu'on comprend qu'un titre qui s'appelle Mozzarella Massacre, ça va être très très drôle. Voilà, tout est à l'avenant. Ça rappelle vraiment les cartoons, donc jusqu'aux années 40. L'histoire fait un peu film noir avec des enquêtes. Vous revenez toujours au même endroit. Il faut récupérer des indices. Vous avez des phases d'action très bien faites. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que ça va être un des gros bangers de cette année 2026. Okay. C'est évident. Il a vraiment cartonné et la DA est absolument fameuse. Et en fait, je pense que ce jeu a été rendu possible et intéressant à cause justement de Cuphead qui a marché très très bien. On a envie de retrouver un peu des jeux avec des graphismes niche, des ambiances très travaillées. Il y en a un second qui arrive qui s'appelle Eternal Life of... j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave.
Okay.
Il a été teasé, il y a eu une première partie de gameplay qui est arrivée, mais c'est aussi des univers très dessinés, avec vraiment très chargés visuellement. Alors, on pourrait croire que dans la scène indépendante, ça reste niche, mais on l'a vu, il y a des choses qui étaient nées sur la scène indé et qui ont explosé sur ces 20 dernières années. Je ne vais pas vous citer les Dead Cells, les Binding of Isaac, etc. C'est vraiment devenu des acteurs majeurs de la scène du jeu vidéo. Ça, c'en est un des plus beaux exemples et vraiment, c'est une réussite. Voilà. Bon.
Allez, j'enchaîne.
C'est parti. Thank you.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Facile.
J'adore les musiques d'Harry Potter.
Bah oui, bien joué.
Bon, The Mandalorian, c'était le générique au début. Et Duel of the Fate de épisode 1.
Bien sûr.
Cette fois-ci avec John Williams.
On était obligé. Et on passe tout le temps à John Williams.
Et absolument, comme ça, au moins, on respecte nos propres traditions.
Voilà. Oui, exactement. Le premier thème, c'était de Ludwig Göransson, évidemment. Hein, mm-hmm. Puisque, si je fais le calcul 7 ans plus tard,
oui.
Star Wars revient au cinéma.
Absolument.
Puisque vous savez qu'ils ont fait... une multitude de séries, dont The Mandalorian, et donc il vient au cinéma avec oui. The Mandalorian et Grogu. C'est le titre du film, donc par Jon Favreau, hein, toujours, qui réalisait certains épisodes de la série. On a aussi Sigourney Weaver qui est là, oui. puisque de toute façon, elle aime l'espace. Hein. Après Alien et Avatar, il faut forcément qu'elle soit dans Star Wars.
Absolument, absolument.
Et donc, je voulais savoir ce que tu en penses aussi de ce fait de dériver la série hein, pour la mettre justement au cinéma dans un grand film 7 ans plus tard. Quoi.
Ils font un peu le chemin inverse de ce qu'ils avaient fait au début, c'est-à-dire ouais. que les films s'étaient étiolés, essoufflés, on l'a vu avec le Capharnaüm qui avait été les trois derniers opus à cause des changements de réalisateurs, ouais. les fans pas contents, etc. Donc, The Mandalorian a ouvert le nouveau Star Wars avec son côté western dans l'espace, ça marchait très bien. Les séries qui sont venues juste derrière en se disant on capitalise là-dessus ont eu moins de bonheur et se sont elles essoufflées aussi, donc je pense que c'est la tentative du nouveau souffle, sachant que c'est leur fer de lance le plus charismatique et qui met d'accord au moins l'ancienne fanbase, les nouveaux et donc c'est un coup de poker quand même parce que effectivement ils se sont bien ramassés. Ça pose la question encore une fois de savoir jusqu'où est-ce qu'on est capable ou bien d'étirer une licence, est-ce qui marche ou de se réinventer. C'est tout le problème en fait de Star Wars en ayant choisi de renier leur propre canon puisque tout avait déjà été pensé et écrit. Ils ont dit non, ça c'est plus canon. Par exemple, les trois derniers films que vous avez vus, eh ben, ce n'est pas canon. Si on nous reparle de Star Wars pour reprendre l'histoire là où elle en est, on va faire comme si tout ça n'avait jamais existé. C'est difficile. Regardez à quel point le reboot c'est compliqué, par exemple pour Marvel. Hein, ouais. C'est à n'y rien comprendre quand votre acteur principal qui était censé être Kang a des soucis avec des débats de justice. Donc on va partir sur autre chose, mais vous inquiétez pas, c'est le multivers.
Ouais,
Ta gueule, c'est magique, c'est connu. Donc... Star Wars avait quand même des succès incroyables, ça a marqué l'histoire du cinéma à tout jamais. Sont-ils capables d'être dignes de leur propre légende? On va le voir. Moi, j'ai envie de dire oui pour pas faire le hater, ce qui dit « c'était mieux avant ». Bon, peut-être. Moi, j'y crois parce que, très honnêtement, c'est, je l'ai dit, The Mandalorian et Grogu, c'est un beau trait d'union pour tout le monde. On est à peu près tous d'accord. Alors, on va lui donner sa chance. On verra si ça suit.
Voilà. Et on verra ça dans quelques semaines puisque ça sort en mai.
D'accord.
Et j'ai passé un deuxième titre qui était Duel of Fates, hein, forcément en référence à la menace fantôme avec le personnage de Dark Maul, puisqu'il y a aussi une série hein, d'animation.
Absolument.
Il
ne
s'arrête pas là-dessus puisque vous savez que The Clone Wars et sa direction artistique est très, très, très adorée parmi les fans. Donc ils sortent une série sur Dark Maul, hein, tout simplement créée par Dave Filoni. Donc voilà, il y a certains épisodes qui sont déjà sortis, donc si vous êtes fan de Dark Maul, faut foncer.
J'ai vu,
très bien.
Je suis tout de même réputé pour avoir une richesse rhétorique et un vocable au service naturellement des séries d'images à l'écran.
Ouais.
Et moi je vais vous donner mon sentiment comme ça, c'est claqué au sol.
Ça marche.
Bon, voilà. Mais
au moins, c'est clair.
Oui, voilà. C'est pas pour moi.
Ouais.
Après, il y a tellement de choses aussi à dire sur Dark Maul. Il y a tellement de choses à faire de bien là-dessus.
Ouais.
Arrêtez comme ça de remettre des tickets dans la machine pour en remettre. Posez-vous. Regardez, ça a été possible avec The Mandalorian, donc c'est possible avec plein d'autres trucs. Arrêtez de faire ça, vraiment. Pitié.
Si vous nous entendez.
Voilà.
Allez, on enchaîne avec
on
toi.
On enchaîne. Bravo, Jory.
Oui. C'est un jeu vidéo de gestion de village viking.
Absolument.
J'ai dit ça, tu m'as dit oui.
Absolument. Ce qui prouve que la musique est bien faite, oui, bien composée, qu'on comprend tout de suite quel est son but. Alors, ouais, on a écouté Freya's Kiss. Hein, Freya, évidemment, une des entités du monde viking.
Évidemment.
Pourquoi j'en parle ? Ça a été composé par chacun. Pourquoi j'en parle ? Parce que le studio bordelais Shiro Games, qui a sorti l'excellent Northgrade, a décidé de décliner son jeu pour en faire un jeu de stratégie, justement.
D'accord.
Mais cette fois-ci en auto-battleur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous ne voulez pas passer 1000 ans à regarder à chaque fois le timer pour voir si vous ne vous faites pas attaquer, etc. En gros, là, cette fois-ci, dans le jeu, vous allez pouvoir placer des unités qui combattent pour vous. Il n'y a plus que de la stratégie. Vous pouvez respirer. Vous aurez toujours vos maisons, vos villages. Ça va produire des unités. Vous les mettrez et ils vont combattre tout seuls. Voilà. Donc, c'est bien parce que c'est un succès et ils ont décidé de faire évoluer le jeu. Il a eu son petit succès en France. Donc, voilà, c'était ma minute cocorico, puisque j'aime bien placer ça dans nos émissions. Allez, on peut s'arrêter là pour cette actu.
Et ben j'enchaîne.
Dis-nous tout.
Oui,
car je n'ai pas trouvé.
C'est un jeu vidéo.
Absolument.
Et c'est Elden Ring.
Oui.
Donc bien sûr, le jeu vidéo sorti en 2025.
Hein, en effet.
Donc créé par Hidetaka Miyazaki avec l'écrivain George R.R. Martin. Hein. Qui a participé au projet. Il y a plusieurs compositeurs, mais là, le compositeur qu'on a entendu avec le titre opening, c'est Tsukasa Saito.
Oui.
Un jeu qui a fait un carton pour les fans des Souls-like, hein, bien sûr.
Totalement, oui.
Voilà, et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il va y avoir un film. Hein. Voilà, forcément, c'est un jeu vidéo, et il va falloir qu'il y ait un film au bout d'un moment.
Oui.
Donc, ça sera par le studio A24 avec le réalisateur Alex Garland, hein, qui a notamment fait la trilogie des 28,
oui.
Insérée un mot périodique plus tard.
Oui,
28
ça,
jours,
oui,
28 semaines et 28, voilà, 28
voilà.
ans.
Oui.
Il a aussi fait Civil War récemment, oui. qui était oui. vraiment oui. cool. Donc Alex Garland, un gros nom. On aura certains acteurs comme Kit Connor, Kylie Spenny, qu'on a vu dans Alien Romulus.
Oui.
Et on aura aussi un nom qui est assez familier pour les fans de Dark Souls, puisque c'est Peter Serafinovich, voilà, qui avait prêté sa voix à l'un des personnages de Dark Souls 2.
Oui.
Donc voilà, un petit clin d'œil, on n'en sait pas plus. On a vu que le tournage avait commencé pour une sortie dans 2 ans, donc en mars 2028. À voir ce que ça va donner.
Moi,
hein,
je
mais
pense
un univers
que ça
comme
peut...
ça, c'est.
Alors, c'est très difficile à adapter, ouais. mais justement, si on, ça permet, quand ça semble touffu, je trouve, quand il y a plein de choses à dire, ça permet de pouvoir raconter ce qu'on veut dans le monde et de prendre un axe en fait très réduit plutôt que de vouloir nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, etc. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout le monde l'a peut-être oublié, mais il y a quand même eu un film Warcraft qui s'est ramassé. et il s'est ramassé pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de tout nous expliquer de A à Z, alors que en fait, ceux qui étaient dans la salle étaient déjà au courant. Il n'y avait pas besoin de nous prendre par la main. Elden Ring, si on veut en faire tout le lore, si on veut tout expliquer, il faut une trilogie, en fait. Et comme on ne va pas faire un Seigneur des Anneaux, de ce que je comprends, ne nous expliquez pas. Prenez juste un angle et allez-y. Par exemple, ça n'a pas marché des masses, mais moi, j'ai beaucoup aimé le choix de Donjons et Dragons, le dernier qui était sorti, parce qu'en fait, ils nous ont fait un film sympa, d'aventure, avec ce qu'il fallait d'action, d'humour, etc. Si vous aviez la rêve, tant mieux. Si vous l'aviez pas, tant pis, c'était quand même un super film. Mmh. Donc c'est faisable. Bon, allez, là, on va se dire quand même que grosse licence, gros banger, hein, Elden Ring.
Gros budget aussi, je crois que c'est 100 millions. Donc, visuellement, ça peut être une belle
claque. Il y a moyen de ne pas forcément tout nous expliquer, de nous dire c'est un monde compliqué, fantastique, etc. Allons-y. On va vous raconter une histoire dans l'univers d'Elden Ring. C'est faisable. Hein, peut-être pour filer le truc, moi, quand on m'a dit qu'il va y avoir un film sur la chasse de Gollum, alors moi, j'ai lu les livres. Hein, vraiment, est-ce qu'il y avait besoin d'y retourner?
Non.
Non, mais si on a envie de nous dire un truc intéressant, c'est Serkis qui va le réaliser, hein, celui qui a fait la voix, qui interprète Gollum. On dit, moi, je vais vous raconter mon histoire de Gollum. Et ben, en fait, ça va marcher, parce que ceux qui n'ont pas envie de voir tous les films vont voir quand même un film Seigneur des Anneaux.
Mmh,
et vous allez voir que ça va fonctionner.
Ouais.
C'est un peu le même esprit, je pense. Voilà, c'est ma théorie.
Aussi.
On verra si ça se vérifie.
On verra ça. Allez, on enchaîne avec toi.
On enchaîne.
Thank you.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Je ne l'ai pas. Enfin, j'ai la musique.
Oh, oui, oui, oui.
Mais je n'ai pas l'œuvre dans laquelle c'est.
Cette musique, j'ai eu la chance d'être dans le Concertgebouw d'Amsterdam en mai 2025. C'était le septième mouvement de la symphonie de Mahler, dirigé par le chef prodige Klaus Makela. Et pourquoi est-ce qu'on parle de lui ? Parce qu'il est dans le film documentaire qui est sorti hier au moment où nous enregistrons cette émission, Nous l'Orchestre, actuellement au cinéma. Bravo à nos auditeurs et aux gens présents dans la salle. Et alors, c'est réalisé par Philippe Béziat, et c'est absolument formidable parce que pour une fois, on a posé les caméras à l'intérieur de la Philharmonie de Paris. Okay. On est au plus près des musiciens. Comment fonctionne l'orchestre ? Quel est vraiment le rôle du chef ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont leurs synergies, leurs doutes, leurs angoisses ? À quel moment ça marche, etc. Pourquoi est-ce qu'ils s'entendent ? Enfin, c'est vraiment très intéressant. En plus, ici, aux Manettes à la Baguette, on est une émission musicale attachée à la musique. Là, c'est un documentaire, film documentaire qui parle de la musique, justement. Ouais. C'est magnifié, c'est vraiment beau. Bon. On y croit. On est avec eux tout au long du film. Un grand frisson. Si vous n'êtes pas fan, justement, des films un peu documentaires comme ça, des films qui vous racontent pas, ou en tout cas qui sont pas fictionnels, ce film est fait pour vous. Ça arrive à vous faire rentrer vraiment dedans. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et en plus, ce chef-là, qui est donc ce qu'on appelle un chef prodige parce qu'il est jeune et qu'il est vraiment excellent, il est incroyablement charismatique. On découvre vraiment à quel point le chef d'orchestre n'est pas qu'un type qu'on pourrait s'imaginer à la Karajan, avec beaucoup de distance entre lui et ses musiciens, avec une baguette et qui sert pas à grand-chose, sauf brasser de l'air. Pas du tout. Donc, c'est vraiment formidable. Ça vous permet d'avoir un pied aussi dans ce que c'est que la musique symphonique, de la musique orchestrale. Bref, voilà, je trouve que c'est une incroyable réussite. Allez voir ce film.
Je vais voir ça. Et en plus, tu parlais de la Philharmonie.
Et oui.
Il y a une expo sur la musique des jeux vidéo.
Mais oui.
En ce moment, la Philharmonie, jusqu'au 1er novembre 2026. Donc, si vous faites un détour à Paris, n'hésitez pas à aller voir
Elle est assez incroyable et bien pensée parce qu'en fait, quand on rentre, on a le choix. On peut aller vers des bornes. Ils ont mis aussi des choses pour jouer. C'est très intéressant. Et on sent que le directeur de l'exposition et les musicologues qui ont monté le truc derrière connaissent leur sujet. Ouais. Ce qui est rare, hein, je tiens à le dire. Le jeu vidéo étant tout de même mon domaine de prédilection. Voilà, c'est rare d'en entendre bien parler avec toutes les bonnes références et en plaçant ça dessus. Là, ils ont fait vraiment le travail et c'est formidable. Merci pour ce rappel,
avec
Joris.
Plaisir.
Voilà, si vous allez à Paris, faites un tour. Là-bas, c'est vraiment génial.
Oui. Et ben, j'enchaîne.
C'est parti. I'm
Alors,
Top Gun.
Bravo. Oui, on était sur la chanson Danger Zone de Kenny Loggins, hein, forcément, tirée du film Top Gun qui est sorti en 1986. Ça fait donc 40 ans que ce film est sorti. Et donc, pour l'occasion, pour l'anniversaire des 40 ans, oui, ils ressortent les deux films.
Oh.
J'ai pas trop l'info sur si c'est les deux films d'affilée ou si c'est les deux films et on peut aller en voir un ou l'autre.
D'accord.
C'est peut-être les deux d'un coup, un petit marathon.
Ce qui permettra
quoi.
De se rendre compte que, oui, en fait, quand il a tourné Entretien avec un vampire, Tom Cruise est vraiment un vampire.
Un vampire, ouais.
Ou bien qu'ils ont des techniques de cryogénisation, parce que vous pourrez faire le distinguo dans la salle.
Voilà, donc à partir du 13 mai, pendant une, ouais, semaine seulement, vous,
d'accord,
pouvez, les grands fans, retrouver les deux Top Gun pour l'anniversaire des 40 ans.
Absolument.
Sachant qu'en plus, Maverick était vraiment pas mal,
oui,
surtout dans la façon,
oui,
de filmer tout ça. Donc voilà,
oui,
c'était le petit anniversaire.
Oui, mais j'étais pas un fan quand j'étais trop jeune, évidemment,
ouais,
parce que j'étais né, donc je pouvais pas saisir Top Gun. Mais quand je l'ai vu, Top Gun, des années après, mm-hmm, dans les années 90, je pouvais pas comprendre vraiment les enjeux. Mais je suis revenu,
ouais,
dans le premier Top Gun grâce à Top Gun Maverick.
Ouais.
Ce qui est intéressant, moi, en tant que cinéphile, bon, au-delà du fait que je suis un grand fan des musiques des années 80.
Bien sûr.
Mais non, c'est très intéressant, super.
Ouais.
Voilà, allez, c'est le moment de rattraper ça, du coup.
C'est ça.
Allez,
et on enchaîne avec toi.
Thank you.
Alors,
musique de série, mais je ne
sais
pas.
Oui, oui, oui. Mais alors, par des moyens mentaux et peut-être télépathiques, tu as donné le nom de ce à quoi c'était relié. On a écouté The Funeral, composé par le merveilleux Volker Bertelmann pour la série 2024 HBO d'une prophétie, qui est une série incroyable. Et donc créée par John Spaines et Diane Ademujon, c'est une adaptation du livre La communauté des sœurs qui se passe 10 000 ans avant Dune. Et c'est une série bien vite oubliée, qui est pour moi une très bonne série pour ceux qui voudraient attendre le troisième volet de Villeneuve dont on nous rabat les oreilles.
Bien sûr.
Etc. Et qui a fait. Ce sont des objets filmiques totalement valides, il n'y a aucun problème, hein, c'est très bien. C'est une adaptation aussi, ce qu'il en a fait Villeneuve. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est très très bien. Et je trouve qu'on a très peu parlé de cette série qui pour moi est assez géniale et on se pose encore la question de savoir si elle aura une saison 2. On espère avec du coup le succès du film qui arrive.
Ouais.
Mais une série dont les deux héroïnes sont des femmes de plus de 45 ans avec du texte, des moyens, etc. C'est une série sous plein d'aspects qui est totalement actuelle, que je trouve assez incroyable et qui mérite... Déjà, son casting est fou, qui mérite d'être beaucoup plus mis en avant. J'ai trouvé l'histoire géniale. Et si vous êtes vraiment fan de Dune, regardez cette petite pépite. Voilà, elle est passée trop vite à mon goût. Et elle mérite sa place dans le lore, et y compris ceux qui ne veulent pas lire les livres.
Bien sûr.
Si vous voulez un peu plus de renseignements sur l'univers de Dune, c'est totalement fait pour vous. Regardez et cela, c'est dispo sur les plateformes. Allez-y.
Trop bien. Je termine avec une musique très courte. D'accord.
C'est parti.
Alors,
la petite maison dans la prairie.
Bien sûr, avec la famille Ingalls. Hein, voilà.
Absolument, l'inénarrable.
Oui, c'est ça. Une série qui est sortie de 74 à 83 et bien sûr rediffusée des multitudes de fois sur M6. Hein,
ad nauseam,
de notre côté, bien sûr. On n'en pouvait plus.
Oui.
Mais voilà, Netflix ressort, bien sûr, à partir du 9 juillet 2026, un reboot
de
la petite maison dans la prairie. Qui est pensé comme une réimagination des livres, hein, parce que c'est des livres à la base, de la petite maison dans la prairie. Donc voilà. Si vous êtes nostalgique ou fan de cette chose, foncez.
Voici un message d'intérêt général. Netflix veut parler à toutes les générations, vous aussi les boomers. Donc allez-y, allez voir le reboot de La Petite Maison dans la Prairie. Je pense que ça s'adresse essentiellement à cette part de marché que nous n'oublierons pas.
Bien sûr, voilà.
Bon, on a pris grand plaisir à vous faire écouter tout cela. N'oubliez pas, chers auditeurs de Manette à la Baguette, que lorsque vous regardez un écran, vous pouvez aussi ouvrir grand vos oreilles parce qu'on peut faire les deux
en même temps.